Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 12 janvier 2021. Bonjour, bienvenue. La police fédérale américaine a prévenu que des groupes armés prévoyaient de manifester à Washington et dans les capitales des 50 États des États-Unis avant l'investiture du futur président Joe Biden le 20 janvier. Face au risque de troubles liés aux actions de partisans du président Donald Trump, la Garde nationale des États-Unis a été autorisée à déployer jusqu'à 15 000 membres à Washington pour contribuer au maintien de l'ordre lors de la cérémonie d'investiture du président élu démocrate, et le Washington Monument sera interdit aux touristes. Le président élu Joe Biden cherchera à promouvoir un message d'unité lors de sa prestation de serment le 20 janvier à Washington, où le dispositif de sécurité sera augmenté suite aux violences intervenues au Capitole le 6 janvier. Le Pentagone a autorisé le déploiement de 15 000 soldats dans la capitale américaine pour la cérémonie d'investiture. Joe Biden entend prêter serment sur le thème de l'Amérique unie, a fait savoir lundi le comité d'organisation de la cérémonie. Donald Trump et son vice-président, Mike Pence, se sont par ailleurs rencontrés lundi soir dans le bureau ovale, affichant leur intention de faire pour leur front commun face aux démocrates qui réclament le départ immédiat du président. Les campagnes de vaccination massive face à la progression galopante du COVID-19 ne suffiront pas à garantir une immunité collective en 2021, a averti lundi l'OMS, dont une équipe est attendue cette semaine en Chine, un an après l'annonce du premier des près de 2 millions de morts de la pandémie. La visite des 10 experts de l'OMS en Chine est programmée à partir de jeudi. Sur le continent, les députés sénégalais ont adopté lundi une loi autorisant le président de la République à instaurer un couvre-feu sans décréter l'état d'urgence et sans devoir soumettre sa décision à l'Assemblée nationale, une procédure jugée trop lourde en cas de crise sanitaire ou de catastrophe naturelle. Le nouveau texte, critiqué par des associations de défense des droits humains et l'opposition, a été voté lors d'une séance de l'Assemblée nationale sénégalaise tenue à huis clos en raison des restrictions liées au coronavirus, alors que le Sénégal fait face depuis décembre à une deuxième vague de contamination. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé lundi la fermeture pour un mois des frontières terrestres du pays, ainsi que le prolongement des mesures contre le coronavirus, alors que l'Afrique du Sud est aux prises avec une recrudescence sans précédent de cas alimentés par une nouvelle variante. Les 20 postes frontières terrestres d'entrée dans le pays vont être fermés jusqu'à la mi-février pour éviter toute congestion. L'armée camerounaise a assuré lundi avoir tué la veille quelques terroristes dans un village de l'Ouest en proie à une insurrection séparatiste anglophone et démenti qu'il s'agissait de civils, comme l'en accusent certains médias et ONG locales sur les réseaux sociaux. Cette opération a été conduite dans le strict respect des règles d'engagement, mais des leaders terroristes ont conçu dans leurs officines occultes un fatras d'images macabres pour essayer de faire endosser à nos forces de défense un aveugle massacre perpétré à Motou, a déclaré l'armée camerounaise dans un communiqué. Les civils sont fréquemment en prise en tenaille et victimes de crimes et d'exactions des deux camps, selon des ONG internationales et l'ONU. Le conflit en zone anglophone au Cameroun a fait plus de 3 000 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile. L'opposition nigérienne a appelé dimanche les candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle prévue le 21 février à se rallier à l'ex-président Mahamat Ousmane, arrivé deuxième face à Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir arrivé en tête, rassemblé au sein de la coalition CAP 2021. 18 partis d'opposition, dont celui de M. Ousmane, ont lancé un appel à la responsabilité civique et à toutes les forces politiques du Niger de se joindre à ce combat ultime, selon un texte lu dimanche au Palais des Sports de Niamey, devant plus de 3000 personnes. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, les démocrates lancent les procédures pour évincer Donald Trump. Une mission de la CDAO en visite à Bamako au Mali avec pour objectif d'évaluer le début de la transition et nouveau procès contre un opposant en Guinée. Jean-Roger Billon à ce micro, on revient dans un instant. Nous émettons de Washington, à tout à l'heure.
La suite de nos informations en ce qui aux États-Unis, les démocrates de la Chambre des représentants plusieurs procédures visant à obtenir le départ anticipé du président Donald Trump, accusé d'avoir incité à la violence qui a frappé le Capitole à Washington mercredi dernier. Les troubles commis par un certain nombre de ses partisans ont fait 5 morts. Les précisions avec Jacques Aristide.
Les démocrates en majorité à la Chambre basse ont mené une double action hier. Des parlementaires ont d'une part déposé un acte d'accusation contre Donald Trump, première étape vers l'ouverture formelle cette semaine d'une seconde procédure de destitution contre le président américain. Un vote en séance plénière pour adopter cet acte d'accusation pourrait être tenu dès demain, mercredi, à la Chambre. D'après l'acte, Donald Trump a encouragé ses partisans à marcher mercredi dernier sur le Capitole. Le président a qualifié les troubles d'attaques odieuses. En parallèle, les démocrates ont appelé le vice-président Mike Pence à invoquer le 25e amendement de la Constitution pour démettre le président de ses fonctions. Les républicains ont bloqué provisoirement son examen par un vote oral. Après cette objection, Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants, a parlé de complicité des républicains qui mettent en danger l'Amérique et sapent la démocratie, dit-elle. Elle a donné 24 heures à Mike Pence pour répondre à cette injonction. Le vote de la résolution est attendu aujourd'hui. Le président Trump, dont les comptes ont été désactivés par Twitter et Facebook, a prévu un déplacement au Texas aujourd'hui pour parler de sa politique d'immigration et la construction du mur frontalier avec le Mexique.
Au Mali, une délégation de la CEDEAO conduite par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, est arrivée à Bamako. Le but de la mission est d'échanger avec les autorités, la classe politique et les organisations de la société civile sur le début de la transition en cours. De Bamako, une correspondance de Kassim Traoré.
C'est dans la mi-journée que le médiateur de la CEDEAO au Mali, Goodluck Ebele Jonathan, est arrivé à Bamako. Il est accompagné par la ministre des Affaires étrangères du Ghana, le président du Conseil des ministres de la CEDEAO et le président de la commission de la CEDEAO, Kassi Brou. La délégation a été accueillie dès son arrivée à l'aéroport international de Bamako-Senou par le ministre des Affaires étrangères du Mali. La délégation de la CEDEAO doit passer 48 heures à Bamako dans le cadre du suivi des décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur le Mali. Au cours de son séjour, le médiateur va rencontrer les autorités de la transition. Il aura une séance de travail avec la Commission nationale électorale indépendante du Mali, la délégation générale aux élections et s'entretiendra avec la classe politique et la société civile. La délégation du médiateur aura aussi des entretiens avec les partenaires techniques et financiers du Mali autour du renforcement du cadre d'appui à la transition au Mali. La visite de Goodluck Ebele Jonathan est une prélude à un vaste sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la transition malienne qui se tiendra le 23 janvier prochain à Abuja, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le parquet guinéen a réclamé lundi 1 an de prison ferme contre une figure de l'opposition à un 3e mandat du président Alpha Condé. Oumar Sylla était jugé pour trouble à l'ordre public. Abdourahmane Dia.
S'adressant à la présidente du tribunal à qui il demande de bien juger, l'opposant déclare être un éternel prisonnier d'Alpha Condé. Ses avocats ont plaidé non coupable. Madame la présidente, vous avez devant vous le roi des jeunes qui, le 29 septembre, est sorti à moto pour haranguer des milliers de jeunes, a pour sa part dit le procureur Lansana Sangaré. Le jugement du tribunal de la banlieue de Conakry sera rendu le 14 janvier. Oumar Sylla a été arrêté le 29 septembre alors qu'il parcourait à moto la banlieue de Conakry pour inciter à participer à une manifestation interdite contre la candidature du président Alpha Condé à un 3e mandat. Il est détenu depuis et a entamé une grève de la faim qu'il a récemment arrêtée. Oumar Sylla, alias Fonike Mangue, est un cadre du Front National de Défense de la Constitution, un collectif qui a mobilisé pendant des mois contre la candidature d'Alpha Condé à un 3e mandat. La contestation durement réprimée a fait des dizaines de morts.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco, présentée par Claire Morin-Gibou.
Au Gabon, les crédits octroyés par le secteur bancaire ont baissé de 11,5% à la fin septembre 2020, selon les données du ministère de l'Économie. Une situation qui s'explique notamment par la baisse des dépôts bancaires dans un contexte de crise économique et sanitaire. Ce recul a été favorisé par le repli de la production et de la vente de certaines matières premières comme le pétrole, dont les ventes ont chuté de 16,2% à fin septembre 2020. Après une année 2020 difficile due au ralentissement de la consommation, les cours du sucre ont démarré en fanfare la nouvelle année. Les prix ont affiché la semaine dernière leur plus haut niveau depuis 2017 à la bourse de New York. Ce dynamisme des cours s'explique surtout par les inquiétudes qui planent du côté de l'offre. Au Cameroun, Eramet, groupe industriel et minier français, a entamé la deuxième phase de ses travaux d'exploration sur le bloc rutilifère d'Akonolinga dans la région du centre. Le potentiel rutilifère du Cameroun avoisine les 3 millions de tonnes, ce qui en ferait la deuxième réserve mondiale de ce minerai derrière la Sierra Leone.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Nous commençons ici en NBA. La rencontre de saison régulière programmée la nuit dernière entre Dallas et la Nouvelle-Orléans et celle entre Chicago et Boston, prévues ce soir, ont été reportées à une date ultérieure à cause de la pandémie de COVID-19. La raison de ces reports tient au fait que les Mavericks et les Celtics n'ont pas 8 joueurs disponibles, le minimum requis par la NBA pour jouer leur match. La franchise de Dallas a dû fermer ses installations dimanche après que 3 de ses joueurs, Josh Richardson, Dorian Finney-Smith et Jalen Brunson, ont été contrôlés positifs au coronavirus, une grande partie de leurs coéquipiers étant potentiellement leur cas contact. Eh bien, ils doivent aussi observer une quarantaine et l'équipe n'a pas assez de joueurs à aligner. Même scénario à Boston où la jeune star Jason Tatum et Jaylen Brown ont aussi contracté le COVID-19. Toujours ici aux États-Unis, les championnats d'athlétisme en salle qui devaient se dérouler les 20 et 21 février au Nouveau-Mexique ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus. C'est la première fois depuis leur création en 1958 que les championnats américains en salle n'auront pas lieu. Ryan Crowser, champion olympique en titre du lancer du poids, lauréat en 2019 et 2020, devait y défendre son titre. Par contre, une compétition du circuit mondial en salle, reportée en décembre, est pour l'heure maintenue le 13 février à Boston. Sur le continent, 33 joueurs représenteront le Mali à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations, qui débute le 16 janvier au Cameroun. Le sélectionneur des aigles locaux, Noum Diané, a présenté sa liste à la presse en présence de notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré.
Le Mali partage la poule avec le pays organisateur, c'est-à-dire le Cameroun. Il y a le Burkina Faso, un voisin du Mali, un autre défi. Et enfin, le Zimbabwe, cet autre pays, a indiqué le sélectionneur du Mali, qui a beaucoup de joueurs de l'équipe nationale A dans son effectif. Pour Noum Diané, malgré tout, une compétition de football réserve toujours des surprises.
Le Mali a énormément progressé et à un autre niveau. On ne va pas aller en se disant que non, c'est le Cameroun ou ceci, c'est là. Le Mali aussi existe. Nous avons des joueurs qui ont prouvé qu'on mérite d'être là. On n'est pas là par hasard.
La confiance placée aux 33 aigles locaux ne souffre l'ombre d'aucun doute, nous a indiqué le sélectionneur Noum Diané.
Moi, je pense sincèrement que nous avons un groupe qui est capable de faire quelque chose au Cameroun. Ceux qui ont joué les éliminatoires pratiquement sont tous là, peut-être à part 2 à 3 joueurs. Pour moi, c'est jouable. Il faut le prouver sur le terrain.
Pour cette phase finale du CHAN au Cameroun, Noum Diané avait ses critères de sélection des joueurs.
Est-ce que tu peux te permettre d'aller avec des joueurs qui n'ont jamais joué une compétition africaine, qui n'ont jamais joué le championnat national du Mali? Critère pour moi, c'est d'abord, il faut que le joueur ait un vécu, qu'il ait de l'expérience.
En attendant, leur premier match de poule prévu pour le 16 janvier prochain contre le Burkina Faso, les aigles locaux s'envoleront ce mercredi pour le Cameroun dans un bon état d'esprit, nous indique leur sélectionneur Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez le monde aujourd'hui. aujourd'hui sur VOA Afrique, Jean-Roger Billon toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. Au Tchad, grogne des agents du secteur public, la plateforme syndicale vient de lancer un mot d'ordre de grève à partir de ce 11 janvier pour exiger le rétablissement des salaires et autres avantages des agents de l'État coupés depuis 2016. Une grève qui intervient dans un contexte marqué par le climat sanitaire délétère en raison de la recrudescence de la pandémie du Covid-19. André Kotbajinga, correspondant de VOA Africa N'Djamena, nous fait le point de la situation.
Une grève générale des travailleurs du secteur public qui a fait de N'Djamena la capitale du Tchad une ville fantôme. Déjà confinée à cause de la montée fulgurante des cas de Covid-19, les activités ordinaires dans la ville et l'administration tchadienne sont paralysées. Pour Barka Michel, porte-parole de la plateforme syndicale revendicative, cette grève vise à exiger du gouvernement le respect des engagements pris avec les fonctionnaires tchadiens.
Depuis des années, vous avez des fonctionnaires qui sortent de l'école en tant que stagiaire et quittent la fonction publique comme stagiaire pour aller à la retraite. Et là, si un fonctionnaire se débat pour pouvoir avoir un papier pour son avancement, on ne lui paye pas. Donc, cette fois-ci, nous demandons au gouvernement de payer les avantages des travailleurs liés à ce gel des effets financiers et de payer les frais de déplacement de tous les travailleurs.
Pour Maïris Ngartoïde Blaise, secrétaire général du syndicat des anciens du Tchad, cette grève se justifie par le fait que l'administration tchadienne est aux abonnés absents lorsqu'il s'agit du traitement des dossiers des enseignants.
Dans le rang des enseignants, il y a des retraités et stagiaires. Même moi qui vous parle, je suis professeur certifié depuis 2015. Je suis resté stagiaire. Ça prouve à suffisance que l'administration cesse de travailler.
Un service minimum est assuré que dans les établissements sanitaires et le service d'urgence qui accueille les patients testés positif du Covid-19 n'est pas touché, a informé à VOA Afrique le président du SENTAS, syndicat national des agents des affaires sociales et de la santé, Younous Mahadir.
Par exemple, on met à la radiologie une personne là où il y avait 10 personnes avant ou 15. Le laboratoire, c'est la même chose. Dans les services hospitaliers, une personne avec un agent d'hygiène aussi qui sera avec eux. Puis, il y a un service d'urgence au cas où il y a une situation qu'il faut opérer. L'hôpital de Val, c'est lui-même, c'est un cas d'urgence permanent. Donc, les gens qui sont là-bas à Fasia sont réquisitionnés pour faire l'urgence. Donc, pour eux, c'est clair là-dessus.
Pour l'instant, aucun commentaire du côté du gouvernement. Cependant, le ministre de la Santé publique, Abdoulaye Sabre Fadoul, se réjouit du fait que cette grève n'a pas affecté les distributeurs de santé, malgré qu'elle intervienne dans un contexte sanitaire tendu.
Je voudrais appeler les syndicats à plus de retenue, même si nous saluons le fait qu'il ait institué un service minimum dans les hôpitaux. Il ne fait aucun doute que les engagements qui ont été pris par le gouvernement seront tenus. C'est une question des programmation, de planification et nous espérons qu'un terrain d'entente sera trouvé dans les plus brefs délais.
Cette grève générale intervient quelques jours après que le président Déby ait déclaré que tous les points du protocole d'accord signé avec les partenaires sociaux en 2020 sont exécutés et qu'il ne reste que les 15% des AGS qui seront régularisés d'ici 2021. Il invite les deux parties à signer au plus vite un pacte social triennal car, dit-il, les grèves à répétition influent négativement sur les performances de l'administration publique. C'est une provocation, estime la plateforme syndicale qui vient de lui répondre par cette grève générale jusqu'à la satisfaction totale de sa revendication. André Kodmadingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Plus de 250 travailleurs étrangers, pour la plupart chinois, ont fui les violences post-électorales en République centrafricaine vers la frontière de Garoua-Boulé au Cameroun, selon les autorités. Ces travailleurs étrangers se disent visés par des groupes rebelles, mécontents des résultats de la présidentielle du 27 décembre en Centrafrique. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Garoua-Boulé au Cameroun. Le récit est de Claire Morin-Gibou.
Li Yu, 43 ans, se présente comme porte-parole des travailleurs chinois qui ont fui les violences en République centrafricaine. Selon lui, 152 commerçants chinois, ingénieurs en construction ou travaillant sur des sites miniers ont fui vers le Cameroun la semaine dernière.
Les groupes rebelles armés ont commencé à menacer les travailleurs chinois dans les mines après les élections du 27 décembre. La situation s'est aggravée la première semaine de janvier. Des groupes d'hommes lourdement armés ont commencé à fouiller nos maisons, à piller et à demander à tous les citoyens chinois de partir ou d'être tués. Ils se disent heureux d'être accueillis par le Cameroun.
Selon lui, plus de 60 Chinois travaillaient sur des sites miniers en République centrafricaine et certains ont traversé la brousse pendant des jours pour arriver au Cameroun. D'autres travailleurs chinois et étrangers ont été aidés à la frontière par l'armée centrafricaine. Le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a rendu visite dimanche à ces travailleurs étrangers à Garoua-Boulaye.
Le président de la République a demandé qu'on vous accorde l'encadrement nécessaire pendant ces moments difficiles. Pour ceux qui veulent se déplacer pour aller à Yaoundé, ils auront des facilités pour pouvoir se rendre à Yaoundé sans difficulté. Pour ceux qui ont des problèmes de papier également, le chef de l'État donne des instructions qu'on facilite les mouvements de tous ces compatriotes chinois qui ont des difficultés du fait des problèmes dans le pays voisin. Donc vous comprenez que le chef de l'État soit particulièrement concerné par la situation des ressortissants chinois en difficulté à Garoua-Boulaye.
La mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, a fait savoir dimanche que la violence augmentait de manière alarmante. Selon elle, 4000 civils ont fui les violents combats dans les villes de Bouar et Grimari et certains se sont réfugiés à l'église de Bouar. Le chef d'état-major camerounais, le général René-Claude Meka, s'est rendu la semaine dernière à Garoua-Boulaye. Il a déclaré, citant les services de renseignement camerounais, que les rebelles centrafricains se dirigeaient vers la frontière.
Nous sommes venus ici pour nous rassurer auprès de responsables militaires sur place de l'efficacité de mesures qui ont été prises pour éviter que notre pays soit débordé par tous ces désordres. Les mesures sont bien appliquées, mais il faut toujours s'assurer qu'on a fait tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de problème.
La violence depuis 2013 a déplacé près de 700 000 personnes à l'intérieur de la République centrafricaine et contraint plus de 60 000 autres à fuir pour la plupart vers le Cameroun, le Tchad et la République démocratique du Congo.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le climat politique tendu aux États-Unis à quelques jours de la prestation de serment de Joe Biden comme 46e président du pays. Les démocrates et quelques républicains au Congrès demandent le départ immédiat du président Trump, alors que d'autres estiment que l'heure est à l'apaisement après les violences au Capitole qui ont fait au moins 5 morts. Comment analyser les événements tragiques du 6 janvier ? Comment analyser les événements tragiques du 6 janvier ? Une deuxième procédure de destitution contre Donald Trump est-elle appropriée ? Comment se prépare l'investiture de Joe Biden ? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
La crise ici aux États-Unis, plusieurs personnalités dans le monde ont réagi après la fermeture par les réseaux sociaux des comptes du président américain Donald Trump. La chancelière allemande Angela Merkel l'a jugé problématique et l'opposant russe Alexei Navalny l'a qualifié d'acte de censure basé sur des préférences politiques. Le directeur du bureau Afrique d'Internet sans frontières, Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, revient sur ses réactions avant de commenter le cas de l'Ouganda où des comptes de responsables gouvernementaux ont aussi été suspendus à 3 jours de la présidentielle.
Imaginez que ces mêmes États ont pris des lois pour dire à ces plateformes que si jamais il y a des contenus, par exemple des fake news ou des violences sur leurs plateformes, que cette même Allemagne a donné 24 heures à ces plateformes de les supprimer, sinon ils vont avoir des amendes tous les jours jusqu'à ce que ces contenus soient exclus. Donc d'un côté, on a déjà tout ce qu'il faut. Les entreprises privées sont aussi des personnes morales, doivent répondre devant la loi. Donc c'est la loi qui doit gérer tout ce qui est bon pour notre communauté ou pas. Maintenant, ce n'est pas aussi à la loi de pouvoir obliger à une entreprise de pouvoir dire ce qu'elle veut ou choisir sa politique publique. C'est ça la question, c'est de trouver le juste milieu. Et les législateurs doivent mettre des limites quand on respecte le principe de la liberté d'expression. Vraiment, c'est très intéressant l'époque où on est en train de vivre, c'est de dire maintenant, on va y arriver à équilibrer les paradigmes. C'est-à-dire aller sur de nouvelles bases, essayer de réfléchir ensemble, non pas de laisser, par exemple, les plateformes faire comme ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica, qu'ils ont utilisé les données pour influencer sur la politique, etc. Non plus de l'autre côté, essayer aussi de dire aux hommes politiques que voilà, ils ont une responsabilité, ils ont leur parole a des impacts, leur parole a des conséquences et que chacun doit vraiment être responsable de ce qu'il dit et pour la cohésion sociale et le bien-être de tout le monde.
Facebook a aussi suspendu des comptes de responsables gouvernementaux en Ouganda juste avant la présidentielle. Alors que dire sur ce cas particulier?
Aujourd'hui, même le gouvernement crée des comptes, parfois des faux comptes, même parfois des comptes officiels pour tenir des discours, pour faire de la propagande ou indexer certaines personnes. Donc Facebook alerte les personnes, informe les personnes et si les personnes ne respectent pas, Facebook suspend les comptes. Ça s'appelle les comportements inadaptés coordonnés. Par exemple, vous avez un compte, vous dites quelque chose qui n'est pas correct et que vous êtes suivi par 1000 personnes et que ces 1000 personnes partagent immédiatement ça et ainsi de suite. Donc tous vos abonnés, vous agissez de façon coordonnée avec un but précis pour nuire à des personnes ou pour discréditer des personnes et ainsi de suite. Ces comportements sont censurés. Ou parfois les gens créent des faux comptes Facebook avec des identités de personnes pour des actions coordonnées non appropriées qui sont contraires au règlement de Facebook. Dans certains pays africains où il y a des gouvernements autoritaires qui ne sont pas démocratiques et qui sont où la liberté d'expression, la liberté démocratique n'est pas vraiment une réalité. Facebook fait très attention. N'oubliez pas que aussi le rôle de ces plateformes, c'est aussi de permettre justement à la diffusion de la liberté, de la démocratie et aider les citoyens à avoir des élections transparentes. C'est ça aussi la politique de Facebook. C'est une plateforme citoyenne hein, qui permet aussi la diffusion des valeurs et des principes d'un monde libre.
Le directeur du Bureau Afrique d'Internet sans frontières, Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, interrogé par Nathalie Barge.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les pompes funèbres du sud de la Californie refusent les familles endeuillées parce que, comme les hôpitaux, elles sont submergées par les décès dus au coronavirus. Un reportage d'Angelina Bagdasarian à Los Angeles, le récit est de Michel Joseph.
Le nombre de lits disponibles en soins intensifs a considérablement diminué à Los Angeles, épicentre de l'épidémie de coronavirus en Californie. Comme les hôpitaux, les maisons funèbres de la ville sont également débordées à cause du nombre élevé de décès dus au COVID-19. Les familles endeuillées doivent attendre des semaines pour organiser les funérailles de leurs proches. Candy Boyd est propriétaire d'une maison funèbre à L.A.
Nous faisons savoir à toutes les familles que cela va prendre du temps. Ce ne sera pas une situation urgente. Leur être cher peut rester ici pendant 3 ou 4 semaines.
Plus de 28 000 personnes sont mortes en Californie du COVID-19. Plus de 11 000 dans le seul comté de Los Angeles. Samuel Eaton travaille pour une entreprise de corbillard.
Il y a 4 jours, j'ai eu 10 appels. Nous étions débordés, nous n'avions pas de place et nous nous sommes efforcés de trouver d'autres morgues afin de pouvoir y garder les corps.
Même constat pour Candy Boyd des pompes funèbres.
À l'heure actuelle, nous agissons sur la base du premier arrivé, premier servi. C'est la façon dont nous gérons ça maintenant. Mes contractuels construisent plus d'espace pour que nous puissions loger plus de personnes.
Son collègue Rob Carlin, d'une autre maison funèbre, dit qu'il a été obligé de refuser des familles endeuillées.
C'est une situation sans précédent. Il y a des problèmes de capacité ici à Los Angeles. J'ai dû en parler aux familles. 8 familles au cours des 4 derniers jours. Je ne pouvais pas les aider. L'installation que nous utilisons pour la réfrigération et l'embaumement et tout cela, il y a de la place pour 85 personnes. J'étais hier dans un endroit pour 375 personnes et ils étaient à court d'espace. Ils attendaient qu'un camion frigorifique se présente mardi où ils peuvent commencer à utiliser une installation comme celle-là.
Il y a encore de longues files d'attente dans les installations pour les tests COVID à côté de l'hôpital Martin Luther King. Les plus vulnérables sont particulièrement inquiets. C'est le cas de Sunday, une habitante de L.A.
Parce que je suis diabétique et que je suis une personne âgée. Voilà pourquoi.
La situation est si désastreuse que la Garde nationale de Californie a été appelée et qu'elle enverrait des camions frigorifiques et fournirait une aide médicale. Et malgré le début timide d'une campagne de vaccination, le bout du tunnel est encore très loin.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.